Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Chers auditeurs, bonjour. Je reçois en interview numéro 2 Élodie Villadier, créatrice de l'agence POC. Bonjour Élodie.
Bonjour Myriam.
Alors bon, on a fait petite interview d'intro. Et puis là, comment, quel est le ressenti quand vous vous promenez en vélo du côté d'Ivry et que vous voyez ce bâtiment de Jean Nouvel? Je sais pas, vous m'avez dit tout à l'heure que il y avait quelques ressentis, non?
Oui,
sans être
fait.
Dans la polémique, mais
alors,
tout de même.
Moi, je me promène
on
beaucoup
est
à vélo,
voilà.
Moi, je me déplace qu'à vélo, à Paris, tout le temps à vélo. Donc, il y a certaines choses, des fois, qui me paraissent des aberrations. Et voilà.
C'est quoi? C'est la grande échelle ou c'est la forme urbaine? Qu'est-ce qui fait que ça interpelle?
Bah, la grande échelle, la forme également. Le fait de... Bon, ce projet, là, je parle de la tour de Jean Nouvel, bien sûr, Porte d'Ivry. Et c'est un projet d'une... Voilà, c'est un projet neuf qui a été créé le long du périph.
Pour... Neuf, mais il faut vraiment aussi avoir ce neuf, mais pensé il y a 12-13 ans.
Voilà.
C'est-à-dire, le problème de l'architecture et de cette difficulté à faire vite, c'est qu'on réinterroge pas toujours le projet. Moi, c'est une de mes marottes de se dire qu'à un moment donné, quand on est architecte, on gagne un concours. À un moment T donné, on a une idée qui était dans l'esprit du temps, qui est dans l'esprit de ce qu'on est en tant qu'architecte, que ce soit nouvelle ou d'autres, hein, c'est pas. Et puis le fait d'être emporté dans la dynamique, dans le faire, et de parfois d'arrêter de faire et de recommencer, etc., fait que on n'a pas toujours le temps de réinterroger le projet aussi pour des raisons financières, bien sûr. Et donc le fait de pas se réinterroger alors qu'entre temps ben la terre tourne, la vie bouge, il y a le Covid, il y a plein de choses, on se rend compte que peut-être il faut être un petit peu plus respectueux de la terre. Qu'est-ce qui fait que on peut pas réinterroger les choses? Ça, c'est un grand mystère.
C'est ça. Il y a on a pris ce projet-là comme exemple, ouais. Ça pourrait être d'autres projets. C'est vrai que est-ce que justement, au moment où on réalise ce projet, on va dire, n'est-il pas devenu obsolète? Même si l'idée première était intéressante de venir faire vivre les espaces autour du périphérique. L'autre projet dont on a un peu parlé en off, c'était le village des JO. Ça, c'est aussi un projet qui...
Vous attendez beaucoup de l'héritage, non? De ce qui va se passer après.
C'est ça. C'est intéressant de voir si ce projet tiendra ses promesses, sachant que aussi urbanistiquement, actuellement, ce village a une configuration un peu particulière. Donc son implantation à Saint-Denis, cette grille urbaine, pour moi, m'interroge. Et ensuite, le devenir de cet espace-là. Construire en 3 ans un espace, un quartier de ville, une petite ville, dans l'actualité du monde, me pose question. Et même
c'est la densité qui pose question, c'est le vis-à-vis, c'est parce qu'il y a l'urbain et l'archi. Il y a effectivement des bâtiments qui, au demeurant, peuvent avoir une certaine qualité.
Tout à fait.
Et puis avec quand même certaines précautions qui ont été prises pour des matériaux.
Biosourcés.
Voilà. Mais il y a quand même il y a l'échelle urbaine, il y a l'implantation. Est-ce qu'on fait ville vraiment?
C'est ça. C'est un peu tout ça. Mais on s'en rendra compte une fois que les athlètes seront partis, voir si ce quartier de ville vivra.
Qu'est-ce qui vous pose question, justement?
C'est d'avoir aussi créé du neuf, alors qu'il y a beaucoup d'espace. Alors, ça pose question, bien sûr, c'est compliqué, mais il y a tellement d'espaces à Paris qui sont inoccupés.
Ah oui, alors après, pour des raisons de sécurité, il fallait absolument regrouper tout le monde.
Bien sûr.
À Paris, il n'y a aucun endroit, en tout cas à Paris intramuros, c'est même la proche banlieue, il n'y a aucun endroit déjà existant qui aurait pu convenir à faire un village des athlètes avec autant de nécessité de lits. hein. Et puis là, encore une fois aussi la la partie sécuritaire malheureusement qui est obligatoire. Alors bon, on peut tabler. Qu'est-ce qui ferait que cet héritage pourrait être vertueux? Qu'est-ce qu'il faut ramener ou qu'est-ce qu'il faut compléter pour que effectivement ça devienne un vrai morceau de ville?
Ah oui, de la nature, des commerces, oui, un transfert de. Alors après, c'est en périphérie de Paris, donc pas délocaliser Paris, parce que c'est de toute façon une ville bien, bien définie. Mais qu'est-ce qui ferait? Alors je ne sais pas si c'est à moi de trouver aujourd'hui, voir déjà comment ce quartier de ville rebondit. Ils ont tout un projet de toute façon pour le faire vivre. Après, il faut pas oublier que ce qui est si particulier, c'est que c'est des cellules qui ont été créées pour les athlètes. Donc après, voir déjà comment les bâtiments eux-mêmes vont évoluer chacun, et après entre eux, et ensuite comment connecter tout ça, bien qu'ils aient déjà commencé à envisager tout ça, mais et bon, comme tout, il y a la théorie, il y a la pratique. On verra ce qui va marcher et ce qu'il faudra adapter. C'est intéressant, mais en même temps...
Après, ça dépend du type de population. Et effectivement, ça dépend aussi de la longueur sur laquelle ça va se faire. Parce qu'on ne fait pas une ville en 2 ans, 3 ans. On fait une ville en 10, 15 ans. Et encore, on a vu des villes qui, même au bout de 15 ans, n'ont pas réussi à sortir de l'esprit, entre guillemets, ville nouvelle. Alors, est-ce que les architectes aujourd'hui, ou en tout cas les architectes comme vous, qui sont plutôt dans, effectivement, dans cette échelle de l'humain, dans la domesticité, raisonnent ou se font entendre sur les réseaux ou dans leurs projets d'une manière différente? Est-ce que l'ego, le moi, est moins prégnant
par rapport aux
architectes, aux grands projets, etc. Ouais.
Oui, bah alors c'est peut-être ça, ce qu'on disait dans la première interview, c'est que peut-être ce qui nous caractérise, nous, en tant qu'architectes du particulier, même si c'est pas, on ne fait pas que du particulier, ouais. C'est cette empathie et donc finalement ce lien proche avec notre client, donc qui fait oublier un peu le moi. On est plus au service tout en ayant un bagage à leur apporter pour créer des espaces à leur image.
Donc est-ce que vous vous nourrissez du nous, des informations ici et là qui sont pas nécessairement connectées à l'architecture, quelque part vous relayez ça? Comment vous faites,
hein? Oui, alors sur LinkedIn, j'avais commencé un peu en m'amusant et en trouvant par exemple Maxime Blondeau, cosmographe, qui crée des contenus passionnants sur la planète aujourd'hui, un peu sur son devenir, mais surtout sur ce qu'elle est. Donc j'ai commencé à republier ce que lui publiait pour justement que les personnes qui me suivent, on va dire en tant qu'architecte, puissent s'ouvrir à un autre monde qui fait partie aussi du vivre ensemble.
Alors, c'est une des réponses. Est-ce que, justement, dans la pratique, vous auriez envie, quelque part, de sortir de cette domesticité et de travailler sur des plus grands projets? Ou, justement, vous concentrez sur cette manière de faire parce que c'est ça votre...
La domesticité n'empêche pas de faire des projets de plus grande ampleur. Alors après, ça dépend ce qu'on parle de plus grande ampleur, mais le fameux projet d'habitat collectif à Romainville qui s'ouvre sur de l'habitat participatif, ça permet d'avoir du domestique d'un peu plus grande ampleur. Mmh. Et ensuite, quand on voit comment travaillait Charlotte Perriand, aux Arcs par exemple, le domestique s'est développé à l'échelle du bâtiment, qui s'est développé à l'échelle d'une petite ville. Donc, on peut revenir, on pourrait comparer les Arcs au village des JO, par exemple. Mmh. Je pense que voilà, c'est pas le même temps passé à
construire. Après, il y avait plus d'espace quand même, hein. On va dire que c'est pas tout à fait la même.
Oui, alors même sans parler d'espace, c'est parler de comment construire. Oui, après peut-être les vues.
Ah ben, je veux dire, on sort, voilà, c'est ça. On sort, on a la vue.
On a la vue, on est dans le terrain. Mais justement, une ville s'inscrit dans un terrain. Claude Parent, quand il a commencé à parler des obliques, il recréait un terrain en oblique, un peu à l'image de Charlotte Perriand aux Arcs, mais sur un terrain de ville, en disant pourquoi la ville se verticalise ou s'horizontalise, alors que la ville en oblique crée des rencontres. Et c'est intéressant aussi de se dire que le terrain, on peut le modeler.
Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est plus un foncier, c'est un terrain, c'est un sol. Donc un sol avec une déclivité, avec aussi une vie. Donc comment fait-on pour essayer de faire comprendre justement à cette copropriété que le jardin nécessite peut-être autant d'attention que l'espace bétonné de la cour intérieure, hein.
On leur montre des références déjà, des références un peu végétales et du retour à la nature. Bon, alors, c'est un petit peu stéréotypé, la ville et le retour à la nature. Mais justement, aujourd'hui quand même, quand on est en ville, on se rend compte que tout a été bétonné. Et les villes ont cette démarche de perméabiliser les sols.
Retrouver leur sol.
Et donc tout de suite, les gens peuvent se braquer en se disant « mais pourquoi ?» Et donc là, on va les accompagner, on va leur montrer aussi l'intérêt de vivre un peu dans la nature aussi en ville.
Formidable, ben on va finir là-dessus et je vais surtout vous inviter, je sais pas, dans un an pour parler de ce joli projet à Romainville. Hein.
Très bien, parfait.
Et ben à bientôt, à bientôt sur nos antennes.
Hein. À bientôt.
Conversations urbaines et architecturales, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.